Bienvenue, chers auditeurs et chères auditrices de la radio Isanganiro dans cette édition en français. Voici les titres. Les journalistes chargés de couvrir les élections collinaires et celles des chefs de quartier prévues ce lundi 25 août 2025 sont appelés à le faire dans le respect du code d'éthique et de déontologie de leur profession, appel lancé par Gabi Ougaga, ministre des Télécommunications et des Médias. Le gouvernement du Burundi, à travers l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat, est appelé à prendre des mesures urgentes face aux menaces que représentent les ravins dans la ville de Bujumbura. Déclaration du docteur Athanase Nkundimana, enseignant-chercheur à l'Université du Burundi et expert en prévention des risques et en gestion des catastrophes. Tout détenu acquitté devrait être libéré et les tortionnaires doivent être traduits en justice. Telle est la position exprimée ce vendredi par le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Jean-Marie Mayonga. La présentation, Albert Ndouayo assure la mise en onde. Bienvenue.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Ouvrons cette édition par page média. Le ministère de la Communication et des Médias demande aux journalistes chargés de couvrir les élections collinaires, celles des chefs des quartiers prévues ce lundi 25 août 2025, de le faire dans le respect du code d'éthique et de déontologie de leur profession ainsi que du code électoral. Gabi Ougaga, ministre de Télécommunication et des Médias, appelle également les autorités administratives et les forces de l'ordre à collaborer avec les journalistes afin de faciliter le travail. Suivez-le au micro de Francine Diokougaï.
Nous allons déployer des journalistes à travers les 5 provinces, à travers les communes pour ce travail. Les moyens requis sont disponibles. Les journalistes ont été dotés des compétences requises pour assurer la couverture des élections parce qu'il y a eu des formations à l'endroit de ces journalistes et puis de 600 journalistes par le ministère. Les médias sont regroupés en synergie. Nous nous adressons à l'administration locale de faciliter le travail de ces journalistes et pour qu'ils puissent accéder à des sources d'informations afin de relayer cette information tant attendue par la population. Le respect du code d'éthique et de déontologie, le respect de la loi, le respect du code électoral, c'est le respect de la loi. Donc ils fassent le travail en respectant les normes préétablies.
Page politique, la commune Mandat dans la province de Bujumbura compte plus de 2000 membres des bureaux de vote. Ils sont appelés à récupérer le matériel électoral ce dimanche dans les chefs-lieux de 3 anciennes communes qui composent la commune Mandat. Cette organisation vise à faciliter le transport, selon Elmenegir de Nyunganira, président de la commission électorale et communale. Par ailleurs, lorsque certains habitants affirment ne pas savoir comment se déroulera le vote, les candidats assurent de leur côté avoir suffisamment expliqué le processus électoral. Le point avec Space Caritas Kamanyan.
La nouvelle commune de Manda compte 401 bureaux de vote avec chacun 5 membres scrutateurs. Au total, 2005 scrutateurs seront Hermenegild de Nyunganira, président de la commission électorale communale à Manda. Ces 2005 membres sont appelés à récupérer le matériel de vote ce dimanche au chef-lieu qui compose la commune Manda. C'est Agihanga, Manda et Rugazi, et cela pour faciliter le transport et le déplacement selon la CECI Manda. Et ce dimanche même, ce sera l'occasion de donner des informations et recommandations nécessaires pour le scrutin de ce lundi à ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'en bénéficier selon la même source. Et les observateurs sont également prêts pour le vote de ce lundi. Ils ont même déjà récupéré leur lettre d'accréditation selon Hermenegild de Nyunganira, président de la CECI Manda. Au moment où certains habitants de cette commune disent qu'ils ne voient pas comment ils vont procéder pour le scrutin de ce lundi. Les candidats pour le poste de chef de colline expliquent qu'ils ont suffisamment expliqué et qu'un électeur ne va mentionner sur le bulletin de vote que 3 noms parmi les candidats. Spécialitas Kavanyana, en commune Manda, province de Bujumbura, pour la radio Isanganiro.
Page société, lutter contre le vol et œuvrer pour l'accès à l'éclairage public ainsi qu'à l'eau potable dans les cellules qui en manquent. Tels sont les projets que le jeune Fabrice Avialimana, surnommé Safari, souhaite prioriser s'il obtient la confiance des habitants du quartier Mouchacha qui l'élise. Ce quartier se situe dans la province de Gitega, commune Gitega, zone Nyamugari. Fabrice s'engage également à initier des actions de développement, notamment l'entretien des routes du quartier. Ce jeune homme est déjà familier avec les responsabilités de gestion et en dirigé une cellule collinaire pendant plus de 5 ans. Suivez-le.
Je me nomme Fabrice Avyarimana, mais beaucoup me surnomment Safari. Je viens de la province de Gitega, commune Gitega, zone Nyamugari, quartier Mouchache. Aujourd'hui, je me présente comme candidat au poste de chef de quartier. J'ai décidé de me porter candidat parce que j'ai eu un désir de servir. J'ai déjà eu l'honneur de diriger la cellule de Viagira pendant 5 ans. J'ai toujours été à l'écoute, que ce soit des jeunes et des adultes. Je crois que c'est grâce à cela que plusieurs m'ont encouragé à me présenter aujourd'hui. Voici les actions prioritaires que je compte mener. Lutter contre le vol qui inquiète beaucoup d'habitants, aussi bien le jour que la nuit. Relancer les travaux communautaires, surtout pour réparer les routes abîmées. Ensemble, avec la population, nous pourrons les rendre praticables à nouveau. Amener l'eau et l'électricité dans la cellule Lubzagira, qui reste encore dans le noir et sans eau potable. Je m'engage à chercher des solutions concrètes en frappant à toutes les portes. Chercher un terrain pour construire un palais du quartier. Un endroit où les citoyens pourront venir exposer leurs préoccupations dans de bonnes conditions. Dans le secteur de l'éducation, améliorer l'éducation en soutenant la création de nouvelles écoles pour éviter que nos enfants traînent dans les rues. Renforcer l'harmonie dans les familles. Car parfois, l'abus d'alcool, notamment les liqueurs, perturbe la paix dans les foyers. Et cela affecte les enfants. Je leur invite à voter pour moi à 100%. Ils me connaissent bien que pendant toutes ces périodes à la tête de cette cellule Lubzagira, j'ai tenu mes promesses. Je suis un homme de parole et je continuerai à l'être, ils le savent.
Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel.
Vous suivez toujours la radio Isanganiro, le journal est continu, page droit de l'homme. Mais tout détenu acquitté devrait être très libéré et les tortionnaires doivent être traduits en justice. Telle est la position exprimée ce vendredi par le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, lors d'un point de presse tenu en commune Nyanza, province Burunga, à l'issue de 2 jours de réunion sur la question de la détention avec les acteurs de la chaîne pénale dans cette province. Monseigneur Martin Blaise Nyaboho a également promis de saisir le ministre de la Justice à la suite de plaintes faisant état de pression hiérarchique exercée sur certains magistrats. Le point avec Mireille Kanyangi qui a suivi la réunion et le point de presse.
Au cours des 2 jours de réunion avec les acteurs de la chaîne pénale en matière de détention et des organisations de la société civile, il a été souligné que la lenteur dans le traitement des dossiers, des défis logistiques, notamment le transport, la surpopulation carcérale, le non-respect des procédures en matière de détention et de libération des prisonniers sont quelques-unes des entraves au respect des droits de l'homme. Parmi les causes évoquées figurent également les pressions hiérarchiques à l'endroit des magistrats. Sur ce, Mgr Martin Blaise Nyaboho, président de la CNIDH, promet d'en parler avec le ministre de la Justice.
Il y a des coups de fil qui viennent des supérieurs qui sont la cause que les magistrats ne se sentent plus en liberté de prendre une décision. Ceux qui font ces appels, nous les cherchons et nous commencerons par le patron de ce secteur, le ministre, et puis nous lui dirons qu'il y a des grognes. Ainsi, nous lui demanderons de faire une descente ici en province de Burunga. Ils lui diront tout. Comme ça, si c'est lui qui aurait ce téléphone, il aura une réponse à leur donner. S'il y a un autre téléphone au-delà du sien, il le leur dira. Ce que nous nous engageons à faire, nous vérifierons, nous enquêterons sur les propriétaires de ces téléphones. Très bientôt, on va rencontrer le ministre de la Justice pour lui donner le compte rendu. Comme ça, le magistrat retrouvera sa liberté d'exercer sa fonction.
Afin de désengorger les cachots et prisons, la CNIDH s'engage à continuer des visites pour voir notamment si les bénéficiaires de la grâce présidentielle sont réellement sortis de prison et que les auteurs d'infractions mineures soient aussi libérés.
Nous allons continuer. Nous allons dès aujourd'hui visiter les prisons et voir si les auteurs d'infractions mineures peuvent être libérés. Deuxièmement, nous vérifierons si les bénéficiaires de la grâce présidentielle restent en prison. Nous voulons qu'ils soient libérés. En troisième lieu, nous voulons voir que ceux récemment emprisonnés, des commissionnaires, des rabatteurs, soient libérés. À l'intérieur du pays, nous y avons été et plus de 214 détenus ont été libérés. Nous allons continuer. Ce que nous voulons, nous, c'est que les gens ne soient pas nombreux dans les cachots et les prisons. Il faut qu'ils aillent travailler. Nous allons essayer d'écouter le plus possible de prisonniers. Si un détenu est acquitté, il doit rentrer.
Pour les dossiers des deux journalistes écroués à Mimba, il informe que pour le cas de Kenny Claude Nduimana, le parquet a interjeté appel. Dans cette conférence de presse ayant suivi ces deux jours de réunion, Martin Blaise Nyaboho a en outre indiqué qu'il ne va pas tolérer les auteurs de la torture.
Le gouvernement du Burundi, à travers l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat, est appelé à prendre des mesures urgentes face aux menaces qui représentent les ravins qui se forment depuis plusieurs années dans la ville de Bujumbura, mettant en péril certaines infrastructures publiques. C'est ce qu'a déclaré Dr. Athanase Nkundimana, enseignant-chercheur à l'Université du Burundi et expert en prévention des risques et en gestion des catastrophes, après que la direction du lycée Sepebu Nangwa, situé dans le quartier Jabé de la commune Mukaza, signalait que cette école est menacée depuis plus de 5 ans par un ravin. Suivez Dr. Athanase Nkundimana au micro de Évariste Ndikomanyan.
Effectivement, il y a certaines infrastructures publiques qui sont aussi menacées, qui sont sous menace, soit par les ravinements, soit par les glissements de terrain, ou même les fissures qui s'observent ici et là. Alors, au cas du possible, le ministère a d'abord de conduire certains travaux afin de voir est-ce qu'on peut réhabiliter, oui ou non. Parce qu'il y a des cas où une infrastructure est exposée et la réparation, la réhabilitation des biens ne peut pas être durable dans ce cas-là. Et si ce n'est pas durable, le mieux c'est de prendre des mesures, disons, comme celle qui a été prise pour le cas de lycée Bouguizo. Vous vous souvenez bien que ce lycée était très menacé par le ravinement de Rubanza. Le gouvernement a pris une mesure noble, c'est pas de fermer cette école. Et maintenant, vous voyez que l'endroit est stabilisé. Et puis aussi, les élèves vont aux activités là où on a déplacé le lycée Bouguizo de l'autre côté, en face d'ONS. Ça a été une solution quand même durable. Alors, je dirais que pour certaines infrastructures où on commence à observer, disons, un phénomène anormal, le mieux serait qu'au bois intervienne très tôt. Il ne faut pas attendre qu'il y ait aggravation de déboulement ou d'effondrement. Mais au cas où on constate que le danger généralisé dans cette infrastructure, on peut toujours privilégier la mesure d'interdiction de fréquenter ce genre d'infrastructure publique et chercher d'autres voies alternatives.
Dans le domaine des infrastructures, la route nationale numéro 1 va être réhabilitée grâce au financement de la Banque africaine de développement depuis les villes de Kayanza jusqu'à Kanyaruba à la frontière rwando-burundaise. Les travaux débuteront dès ce samedi. Les habitants possédant des parcelles situées le long de cette route demandent à être informés des procédures d'indemnisation. Godefroy Nyonidziguiye, administrateur communal de Kayanza, les rassure qu'une réunion à leur intention est prévue prochainement pour leur expliquer comment se déroulera le processus d'indemnisation dans les jours à venir. Le point avec Patrick Sengyoum.
La route numéro 1 qui sera réhabilitée par la Banque africaine du développement commencera dans la ville de Kayanza, où l'on appelle communément Kuruwaho jusqu'à la frontière rwando-burundaise et Kanyaruo. Godefroy Nyonizgi, administrateur communal de Kayanza, appelle les habitants de la commune qu'il dirige à s'impliquer dans la mise en œuvre de ce projet qu'il juge important pour le développement de la commune Kayanza. Les habitants ayant des parcelles près de cette route demandent d'être informés sur la procédure d'indemnisation. Certains indiquent qu'ils n'ont pas de certificat foncier de leur parcelle, alors que ce document sera exigé pour être indemnisé. À ce propos, l'administrateur communal Kayanza tranquillise que très prochainement, une réunion à leur intention sera organisée pour expliquer à la population comment celui ou celle, cette route passera dans sa propriété foncière, sera indemnisée. Toutefois, cette autorité administrative communale Kayanza rappelle à ses dirigeants qu'ils seront indemnisés passée, celle dont les délimitations de leur parcelle se trouvaient en dehors des 6 mètres de l'emprise et de la route nationale. Signalons que dans le même cadre de la mise en œuvre de ce projet, les routes reliant les quartiers de la ville de Kayanza seront pavées à une distance de 20 km. Depuis la commune Kayanza de la province Butanyerera, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro.
Page Sport, 77 athlètes judoka, dont plus de 50 filles, ont participé au championnat national édition 2025 organisé ce samedi. Selon Focas Medzindagano, secrétaire général de la Fédération mondiale du judo, l'objectif principal de ce championnat est de constituer l'équipe nationale. Suivez-les.
Aujourd'hui, nous sommes en plein championnat national où nous attendons sélectionner les jeunes qui vont faire partie de l'équipe nationale. C'est un grand moment, un grand rendez-vous pour la jeunesse parce qu'on va pouvoir sélectionner toutes les catégories de jeunes qui vont représenter notre cher Patrick. Pour les statistiques, nous avons eu la participation de 177 athlètes au total. Ils sont ici des sélections qui ont été effectuées au niveau des communes et au niveau des provinces. Donc c'est ça, 77, dont 53 filles et 124 hommes. Et tous sont ici de 27 clubs qui ont pu arriver à ce degré de participer au championnat national. Sinon, au total, nous attendions à 42 clubs.
Radio Isanganiro, chronique culture.
Page chronique art et culture, l'expert musicien Yves Kami nous parlait des outils utilisés pour mener à bien une recherche musicale jusqu'à sa validation. Il soulignait que la contribution d'autres artistes est plus que nécessaire dans ce processus. Chronique art et culture avec Christian Savi.
Dans les deux précédentes chroniques art et culture, l'artiste, auteur, compositeur, chercheur Yves Kami nous a défini ce que c'est la recherche musicale et nous a également parlé de sa recherche qui a abouti à ce qu'il a appelé Yaya Blues. Aujourd'hui, il va nous parler des procédures utilisées pour arriver à créer ce style musical burundais appelé Yaya Blues. Pour y arriver, il avait besoin du matériel et d'autres artistes travaillant ensemble.
L'Institut français du Burundi qui a mis à notre disposition la salle, les instruments aussi, mais aussi des maestros, des maîtres dans la musique burundaise. On peut citer Torobeka Joseph, c'est une légende vivante qui nous a vraiment inspiré en ce qui est d'Olinanga, en ce qui est des mélodies burundaises. On ne peut pas parler de pentatonique sans parler d'Inanga. Donc, Torobeka nous a mis dans le bain pour avoir des recherches bien menées grâce au sujet. Vincent Mundifura, qui est un expert dans les percussions, Gatti Makarios à la basse, Derek à la batterie, Louis au piano, le médiateur, un grand soliste du Burundi.
Après la résidence artistique, il fallait une validation.
Le 2 février en 2025, on a présenté ce style. Il y avait pas mal d'invités qui ont vraiment apprécié le style, vraiment validé ce style, justement avec le public.
La base de sa recherche est inspirée par le folklore. Yves Kami nous en parle.
Donc pour avoir une musique qui a une identité, il ne faut pas chercher à gauche à droite, il faut puiser dans le folklore d'une nation. La plus-value, justement, il y en a, parce qu'en construisant une musique bâtie, une musique qui est construite à base d'Amayaya, on arrivera loin, j'en suis sûr. Cette musique, elle ne tombe pas du ciel, elle part d'une source qui est déjà là, une source qui est dans nos sangs.
La prochaine étape, selon l'expert chercheur, c'est d'arriver à exporter ce nouveau style burundais appelé Yaya Blues.
C'est sur cette nouvelle que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de nous avoir prêté oreille attentive. Au revoir, mais juste après, c'est la revue de la presse.
Revue de la presse.
Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Des candidats exclus de la course aux élections des chefs de colline et de quartier introduisent des recours, rapporte Net Press. En effet, écrit ce confrère, il se compte par dizaines de candidats exclus par la CECI Rumonge et qui ont introduit des recours auprès de la CEPI Burunga. Ils disent qu'ils ont été surpris d'être exclus en pleine campagne électorale. Au niveau de la CECI Rumonge, son président Félix Manirakiza indique avoir mis en application les orientations de la CENI sans pour autant les citer, écrit Net Press. Ce quotidien en ligne donne l'exemple de Sylvain Gachindi, candidat exclu sur la colline Mutambara en commune de Rumonge, qui dit avoir été exclu parce qu'il vit en concubinage. Il a eu gain de cause au niveau du tribunal de grande instance et ne comprend pas pourquoi la CECI a foulé au pied un jugement judiciaire, précise Net Press. Le scrutin le plus stratégique de tous, estime le journal Iwachu, qui rappelle d'abord que le 25 août 2025 est une journée d'élection des conseillers de colline ou quartier et des chefs de colline ou quartier. Une particularité importante de ce dernier scrutin du processus électoral est que tous les candidats doivent se présenter à titre indépendant, fait remarquer ce confrère. Cependant, nuance Iwachu, dans la pratique, de nombreux candidats ont une affiliation partisane. Pour le parti au pouvoir, analyse ce journal, une victoire écrasante aux élections collinaires est brandie comme la preuve irréfutable de sa légitimité populaire. Contrôler les collines et les quartiers n'est donc pas une option, c'est une nécessité absolue. C'est la base de son hégémonie. Perdre les collines et les quartiers signifierait perdre le contact direct avec la population, perdre son principal outil de mobilisation et voir son autorité contestée à la racine, poursuit cet hebdomadaire. Ainsi, ce scrutin local, en apparence peu important, est en réalité le plus stratégique de tous, martel Iwachu, qui conclut en se demandant si, face à la stratégie du rouleau compresseur du parti au pouvoir, l'opposition politique, entre guillemets, a pu développer des contre-stratégies. L'avenir nous le dira, écrit Iwachu.
Revue de la presse.
Travail clandestin en Tanzanie, entre survie et risque pour les jeunes Burundais, alerte Burundi Echo. En effet, explique ce confrère, le phénomène des enfants et jeunes qui traversent la frontière pour aller travailler en Tanzanie prend de l'ampleur dans certaines communes frontalières du Burundi, dont celles de Nyanza et de Rutana en province de Burunga. Sans papier, sans protection, il s'expose à toutes sortes de violences. Selon ce journal, l'administrateur communal de Nyanza, Diomède de Sengimana, tire la sonnette d'alarme sur cette réalité aux conséquences sociales préoccupantes, soulignant que la plupart de ces enfants ne sont pas originaires de la commune de Nyanza, mais qu'ils viennent d'autres provinces et d'autres communes, puis passent parfois par Nyanza avant de franchir la frontière. On termine cette revue de presse par cette annonce de l'agence burundaise de presse, à savoir que la jeune joueuse burundaise de tennis, Sada Nahimana, est la première joueuse issue de la communauté est-africaine à participer au prestigieux tournoi de l'US Open aux États-Unis. Lors de ce tournoi de l'US Open, elle a affronté la joueuse française Manon Léonard et le match s'est soldé par une défaite de Nahimana sur un score de 0-7-2, rapporte l'ABP, qui explique que les US Open Tennis Championship, plus connus sous le nom de US Open, sont un tournoi de tennis sur surface dure créé en 1881. Organisé chaque année par la Fédération américaine de tennis, il se déroule à Queens, dans la ville de New York. Ce tournoi est le quatrième et dernier grand chelem de la saison, après l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, précise encore l'ABP. C'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes.
Revue de la presse.